Bonjour Frédéric Huttman, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Lola Descours, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Et Paloma Quider, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors Paloma Quider, j'ai eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises, notamment pour un disque consacré à des sonates de Beethoven. Je vous ai aussi reçu en tant que pianiste du trio Karénine, mais là je vous reçois à une toute autre occasion puisque vous êtes aux côtés de Lola Descours à propos d'un disque qui vient de paraître pour le label Orchid Classique, et un disque avec un programme finalement d'œuvres pour violoncelle et piano, si ce n'est que Lola Descours, vous êtes bassoniste et donc vous avez choisi un programme russe, bassoun, alors steppe, et d'œuvres russes. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est transcrit pour le basson, ces œuvres essentiellement, alors soit pour piano seul qui avaient été transcrites pour violoncelle, soit directement écrites pour violoncelle et piano, comme la sonate de Rachmaninoff.
Tout à fait.
Quel est le travail de la bassoniste au niveau de l'écriture?
Alors, il y a eu un vrai travail de recherche, en effet, pour créer ce programme. Il n'y a pas seulement des œuvres transcrites du violoncelle, mais donc, comme vous l'avez dit, du piano également, les préludes de Chostakovitch qui sont à l'origine seulement pour piano, que nous avons sélectionné 6 préludes et nous les avons arrangés pour basson et piano. Mais il y a également des mélodies, donc où le basson reprend la voix, le rôle de la voix.
Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que quand on écoute ces œuvres, et si on ne sait pas qu'elles ont été composées ou pour le piano ou pour le violoncelle, on a vraiment l'impression que ça a été composé pour le basson. Et alors, il y a une tessiture tellement proche entre le basson et le violoncelle.
En effet, alors la tessiture est vraiment similaire entre le basson et le violoncelle. Après, il y a vraiment un choix des œuvres, parce qu'on peut arranger beaucoup de choses, mais toutes les œuvres ne font pas sens sur le basson. Donc là, il y a vraiment eu ce travail de sélection, de choix et de couleurs de son qui correspondent à l'instrument. La voix également est très proche du basson, puisque le basson est un instrument. Et à la tessiture du violoncelle, donc c'est l'équivalent du violoncelle, le cousin du violoncelle, disons, chez les bois. Mais le basson est donc un instrument à vent, donc c'est vocal. Donc il y a aussi cette proximité avec la voix.
Justement, je me tourne vers vous, Paloma, puisque vous êtes connue, alors c'est un délicat de dire, au premier chef comme pianiste au sein du trio Karénine. Ça veut dire que vous jouez avec deux instrumentistes à cordes, donc vous êtes habitué à jouer avec une violoniste et un violoncelliste, en l'occurrence Arlo Julliard et Louis Rode. Donc ça veut dire que votre jeu est complètement différent, j'imagine, quand vous jouez avec une bassoniste et quand vous jouez avec des instrumentistes à cordes. Vous vous sentez plus proche de quel instrument, en fait?
Je pense que ce sont des questions d'apprentissage, d'habitude, d'expérience. Effectivement, le trio Karénine existe depuis 12 ans. Nous avons fait nos classes avec le quatuor Isaïe, enfin sous la direction, on va dire. Nous sommes au début, si vous voulez, la fondation du trio Karénine, c'était vraiment l'idée de se mettre au travail musicalement comme le ferait un quatuor à cordes. Donc avec la même assaise aussi, dans la concentration sur le répertoire, etc. Et puis surtout, sur ce qui est assez miraculeux, cette volonté, parce qu'il faut vraiment le vouloir pour réussir à comprendre comment ça peut fonctionner, l'idée de savoir fusionner des sons aussi hétérogènes que le son, la technique d'instrumentiste à cordes. Et puis bon, on dit piano, effectivement, on appartient en tant que pianiste à la famille des percussions, mais bon, on a quand même des cordes. Donc, c'est simplement que le procédé n'est pas le même. Donc, ce qui est fabuleux, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de travailler avec, puisque ça m'arrive, ça m'arrive de travailler évidemment avec des chanteurs, avec d'autres instrumentistes à cordes, bien sûr, mais aussi des instruments à vent. Et c'est vrai que, bien sûr, la technique n'est pas la même. Il y a cette question, évidemment, de la respiration. Donc, le phrasé, évidemment, on peut en discuter, et puis moi, j'ai pas de honte à dire que, au premier abord, je dois faire un petit effort pour me dire, ah oui, c'est vrai, je ne suis pas avec un instrumentiste à cordes qui n'a pas besoin, dont le parcours, même mental, n'est pas le même. Et donc, c'est extrêmement enrichissant, puisqu'on n'aborde pas du tout la musique de la même manière. Je pense aussi que la question des hanches, il y a tout un... Par exemple, un basson, enfin... un bassoniste ou une bassoniste arrive avec un peu des accessoires et c'est il y a un côté magique parce que notamment au piano, on n'arrive pas avec des cordes de rechange. Enfin, je veux dire, on a notre piano, puis voilà. Après, si ça marche pas, ben on appelle un accordeur en fait. Donc ça, c'est assez fascinant et je dois dire que ça permet aussi de se recentrer sur ce qu'est la musique. C'est aussi, il y a quelque chose de pragmatique. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir produire quelque chose dont on pense qu'il va être en accord avec l'œuvre. Enfin, c'est super.
Vous vous connaissez depuis longtemps, toutes les deux?
Alors, oui, puisque nous étions au lycée Racine ensemble, Paris. Dans le 8e.
Donc vous, à l'époque, vous étiez encore dans le piano ou le...
À l'époque, alors donc en effet, j'ai démarré par le piano. Le basson est venu un peu plus tard. Je tombe amoureuse de cet instrument lors de l'Enfant les Sortilèges de Ravel, qu'on avait monté avec les classes du conservatoire, où j'étais dans les chœurs d'enfants. Et là, je suis tombée amoureuse du basson. En fait, on assistait à beaucoup de répétitions, on attendait pour la plupart du temps. Et donc, j'étais assez fascinée par l'orchestre que je connaissais peu, et à part quelques instruments, évidemment, les plus populaires. Et oui, il y a vraiment eu un coup de foudre, en fait, je pourrais dire, pour cet instrument, autant par la sonorité que par l'aspect physique que je trouve très original, drôle et beau, en fait. Je trouve que c'est un instrument très...
Effectivement,
très élégant.
Voilà une parfaite définition. Alors vous avez choisi un répertoire russe. Il y a un lien très fort entre le basson et le répertoire russe. Enfin, sans compter le célèbre début du Sacre du Printemps ou même Pierre et le Loup ou d'autres œuvres où le basson a une place essentielle. Ce Sacre du Printemps, d'ailleurs, puisque vous êtes basson solo, vous avez été à l'Orchestre de Paris, puis à l'Orchestre de Francfort, et maintenant vous êtes à l'Orchestre de Rotterdam. Donc ce Sacre du Printemps, c'est une œuvre emblématique pour l'orchestre et pour vous.
Bien sûr, oui.
Vous l'avez beaucoup joué.
Je l'ai beaucoup joué, mais figurez-vous que j'ai encore jamais joué le solo.
Ah oui.
Donc j'ai hâte de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, nous étions hier en concert avec Rotterdam, avec l'Orchestre de Rotterdam, au Théâtre des Champs-Élysées. J'ai vraiment pensé à ce moment, à cette création en 1913, avec tout le scandale que ça a fait, apparemment la petite anecdote qui disait « Nous avons besoin d'un médecin, s'il vous plaît, un dentiste, deux dentistes
!» Et donc on attend, alors vous attendez ce...
J'attends ce moment avec impatience, tout à fait.
C'est étonnant d'ailleurs, parce que j'avais discuté avec un corniste du deuxième concerto de Brahms, puisque lui a le même rôle dans ce concerto que vous... dans le Sacre du Printemps, c'est-à-dire il ouvre l'œuvre. Il me disait c'est extraordinaire d'entrer comme ça et on est tout seul, il y a le son qui se diffuse comme ça, ouais. Ça doit être une sensation formidable. En tout cas là donc vous êtes au sein de l'orchestre de Rotterdam avec ce concert que vous avez donné hier aux côtés de l'immense violoniste Keilari Hahn. Ça va la saison de l'orchestre de Rotterdam, vous avez des belles affiches.
Nous avons une belle saison et nous sommes très gâtés.
C'est un orchestre qui appartient à une tradition très marquée.
Oui, alors il y a vraiment la tradition de Valéry Gergiev en fait. L'orchestre de Rotterdam est un orchestre assez ambitieux et innovant. C'est vraiment un orchestre qui a misé très souvent sur des jeunes chefs qui n'étaient pas du tout connus, donc comme Valéry Gergiev, qui à l'époque n'était absolument pas connu en Europe, et ça a été son premier poste, et il est resté 15 ans à la tête de l'orchestre. Et ensuite, Yannick Nézet-Séguin a pris la suite, et c'est pareil, il était seulement entre guillemets chef d'orchestre au Metropolitan de Montréal, donc il n'avait pas du tout encore cette carrière internationale qu'il a eue. Donc c'est vraiment un orchestre innovant qui finalement permet à de jeunes chefs de s'épanouir et d'éclore. Ouais,
là c'est la Afshani actuellement. Donc comment ça s'est passé depuis un an? Vous avez joué beaucoup de répertoires avec lui ou avec beaucoup de chefs invités?
Oui, la saison se partage, disons, peut-être un tiers de la saison est dirigée par Lahav Shani et le reste sont des chefs invités. Nous avons aussi découvert un chef incroyable, encore un Finlandais, très talentueux, oui. 22 ans, un peu plus jeune que Klaus Mäkelä.
Il est vieux pour un chef finlandais.
Et qui est maintenant notre premier chef invité. Qui a été nommé premier chef invité. Donc il s'appelle Tamor Petolkovski.
Alors Paloma, je me retourne vers vous puisque dans ce disque, on va parler du répertoire de ce disque Bassoon Steppe. Donc vous êtes bien sûr de côté de Lola Desco. Alors il y a une œuvre phare, enfin toutes les œuvres sont des chefs-d'œuvre, mais il y a une œuvre phare qui est bien sûr la sonate de Rachmaninov pour violoncelle et piano. Et c'est une œuvre que vous avez beaucoup jouée avec des violoncellistes.
Alors c'est une œuvre que j'ai jouée, heureusement que je l'avais jouée d'ailleurs, parce que je pense que ça m'a donné aussi un regard, disons, autour de l'adaptation que tu as pu en faire. Je l'avais déjà expérimentée vraiment avec violoncelle. Je ne l'ai pas non plus énormément jouée, mais je l'ai jouée quelques fois. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à l'enregistrer. Ça arrive parfois, on joue des œuvres et on se dit « Oh là là, si jamais je l'enregistre un jour, ceci, cela. » Et puis, on ne pense pas qu'on va nous le proposer. Puis finalement, ça arrive beaucoup plus tôt que prévu. On dit « Ah, bon !» Et c'est un beau défi. J'étais très curieuse quand Lola m'a proposé ce programme de l'entendre. Tout simplement au basson. Et je me doutais que, notamment dans le second mouvement, on entend des articulations qui peuvent tout à fait immédiatement faire penser au basson et dans lesquelles on se dit que le basson a toute sa place. Et puis, je pense que quand même, ce que j'ai... Évidemment, ça paraît une évidence, puisque le basson est un instrument à vent et donc il a cette faculté vocale. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à entendre autant le lyrisme, autant cette qualité lyrique du basson dans cette sonate, et qui est extrêmement lyrique. Voilà, ça tricote au piano, et puis au violoncelle ou au basson, ça chante. Et de temps en temps, on essaye de chanter aussi un peu au piano. Et oui, c'est un défi, hein, cette sonate. Et c'était formidable de la vivre avec Lola à travers cet enregistrement. Et j'ai trouvé que justement, le basson apportait beaucoup de souffle, en fait, à cette sonate, sans jeu de mots. Mais on respire différemment, et on est aussi un peu obligé de respirer, et nous aussi, avec le basson. Et en même temps, le côté mordant est là aussi. Enfin, c'était un très beau voyage. Et c'est aussi le propre, je trouve, de la transcription. Ne pas chercher à retrouver l'œuvre telle qu'on la connaît, mais découvrir d'autres coins, d'autres facettes, puisque quelque part, l'interprétation, c'est quand même de mettre en valeur... Sa vision d'une œuvre à travers la connaissance qu'on en a, mais aussi peut-être des choses que d'autres interprétations ne font pas entendre.
Alors cette œuvre, elle est absolument merveilleuse, mais quand même le mouvement lent, la fin du mouvement lent, ça vous cueille complètement. C'est une musique absolument bouleversante, à la fois le piano et le basson. Enfin, c'est un des moments les plus bouleversants de toute la musique de Rachmaninov, je trouve.
Mais c'est-à-dire que c'est un moment particulièrement poignant, dramatique. On peut y mettre, je pense, plein de choses. En tout cas, extrêmement intense.
Ouais. Et vous, Lola Descours, avant de prendre votre instrument, le basson, pour interpréter cette sonate, vous l'avez beaucoup écouté au violoncelle, ou justement vous avez essayé de vous détacher totalement de l'instrument d'origine?
Oui, je l'ai beaucoup écouté au violoncelle. J'ai écouté beaucoup d'interprétations différentes. Et oui, pour m'inspirer, évidemment, de cette technique d'archer, j'ai essayé vraiment d'assimiler l'archer à l'air, en fait, c'est la même. Et à la fois de copier, de m'inspirer, mais finalement après de proposer quelque chose de différent, un nouveau visage, en fait. Comme vient de le dire Paloma, c'est vraiment le principe de l'arrangement, c'est de proposer un autre regard. Et à travers le basson, je trouvais que oui, il y avait cet aspect du souffle, cet aspect lyrique qui est très intéressant dans cette sonate. Et en même temps, le mordant, l'articulation dans le deuxième mouvement qui est typique du basson, qui est vraiment beaucoup utilisé par peut-être un petit peu moins par Rachmaninov, mais par les compositeurs russes qui ont beaucoup écrit pour le basson dans le répertoire orchestral, le répertoire symphonique. Donc ce projet, il est vraiment né suite au concours Tchaïkovski, en fait, où pour la première fois en 2019, Valérie Gagieff a ouvert le concours aux instruments à vent, au cuivre et au bois. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un prix à ce concours. Et finalement, dans ce programme de concours, il y avait beaucoup d'arrangements de musique russe. Et en échangeant avec des musiciens russes, j'ai vraiment compris qu'il y a une tradition pour eux de l'arrangement. C'est vraiment pas... En France, on est un petit peu plus complexé, scrupuleux. Je pense qu'on a aussi un répertoire français qui est peut-être vraiment très spécifique, particulièrement au XXe siècle, vraiment écrit pour des instruments avec des techniques qui sont propres à chaque instrument et qui peuvent pas vraiment être, je pense à Debussy ou à Ravel, qui sont plus difficilement adaptables Alors que les Russes, ils ont vraiment cette liberté, en fait. Ils s'octroient ce droit d'arranger beaucoup plus, en fait, la musique. Donc, il y a eu ce point de départ, et puis de réaliser à quel point finalement, la musique russe, moi, dans mon parcours de musicienne d'orchestre, a été extrêmement important, en fait. Que ce soit Tchaïkovski dans ses symphonies, donne une très belle part au basson, avec de nombreux solos, ou Rachmaninov, dans les concertos pour piano, dans les opéras, quand j'étais à Francfort, les opéras de Glinka, de Tchaïkovski.
Parce que, excusez-moi de vous interrompre, l'orchestre de Francfort est à la fois... Non, vous étiez dans l'orchestre de l'opéra.
Moi, j'étais membre de l'orchestre de l'opéra de Francfort. Opéra Francfort, voilà, c'est ça.
Parce qu'il y a des orchestres qui ont deux vocations, mais là, en l'occurrence...
Non, on joue un petit peu l'orchestre joue quelques concerts symphoniques à l'Alte Oper, mais principalement, c'est vraiment une maison d'opéra. Ouais.
Et vous venez d'un horizon toutes les deux quand même très différentes, puisque vous, justement, Paloma, il y a ce côté chambriste, le trio Karénine depuis 12 ans, et vous, Lola Descours, même si vous êtes une amoureuse de la musique de chambre, l'orchestre prend une place énorme dans votre itinéraire musical. Donc, comment ça se passe, votre réunion de vos deux parcours vous êtes retrouvés sur le terrain de la musique de chambre de manière naturelle.
Oui, à l'initiative de Lola qui m'a contactée en me proposant en fait ce programme. Et
le lycée Racine mène à tout.
Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense qu'on se retrouve tout simplement autour des œuvres. Et comme Lola, tu l'exprimais si bien autour de la sonate de Rachmaninov et ton écoute des enregistrements avec violoncelle et piano. Voilà, moi c'est vrai que au sein du trio Karénine et d'autres collaborations de chambristes, mais quand je t'entends parler de l'air et de l'archet, des efforts, enfin d'imagination pour t'inspirer, en fait, c'est une question d'inspiration, d'une certaine technique pour aller dans une direction donnée. Que, en fait, guidé par tes oreilles, moi, quelque part, notamment grâce à l'enseignement du Quatuor Isaïe ou Hato Bayerle, qui était altiste au sein du Quatuor Albanberg, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a vraiment séduite, c'est qu'à travers la rencontre des autres instruments et de cette écoute, j'ai cherché pendant des années, je cherche toujours, mais c'est devenu un peu plus quand même une nature. Comment on attaque une note, comment on phrase, et en fait en s'inspirant des collègues, c'est fantastique, enfin des collègues qui ne pratiquent pas le même instrument, c'est formidable parce que on enrichit tellement sa pratique musicale, mais purement instrumentale, en fait, et c'est là qu'on fait totalement le lien avec l'écoute, l'oreille, et tout se réunit, c'est-à-dire que contrairement à tout ce que j'avais pu apprendre auparavant. Et après, ça se passe à l'infini. On le dit toujours, hein, quand on fait un métier, on pratique un métier artistique, on n'arrête jamais d'apprendre. Et donc, c'est vrai que c'est assez ensorcelant, en fait. Donc, je pense que toutes les deux, on s'est retrouvés autour des œuvres, en fait. Qu'allons-nous faire de ces œuvres? Comment les rendre? Comment réussir à les faire entendre? Parce qu'en fait, quelque part, c'est assez osé. Finalement, de proposer des arrangements. Alors, pour certaines, je pense moins, par exemple, les préludes pour piano de Shostakovich, parce qu'en plus, il y a une forme de...
Il y a déjà eu une transcription
d'une
pour
part, voilà, c'est ça, et puis il y a une forme d'immédiateté. Mais c'est vrai que la sonate pour violoncelle et piano, on peut tout à fait imaginer que les musiciens, notamment, se disent, tiens, qu'est-ce que ça peut donner? Et en fait... je pense que depuis la sortie du disque, on a reçu vraiment de très bons retours. Et puis, moi, intimement, je suis convaincue, pour l'avoir joué justement avec violoncelle, que c'est passionnant aussi au basson, et c'est ce qui est le plus important, quelque part.
Non, ce que je trouve justement fascinant, parce que Lola Descours, vous disiez justement que chez les Russes, il y avait une plus grande liberté par rapport à l'adaptation, la transcription que pour les Français. En même temps, quand un compositeur compose une œuvre pour tel ou tel instrument, c'est soit une commande d'un musicien, on pense à Brahms pour ses œuvres pour clarinette ou à d'autres. Et là, alors Rachmaninov, je ne sais plus pour qui il avait composé cette sonate, si c'était pour un violoncelliste précis, mais en même temps, le compositeur, il a une idée du son. Et vous nous faites apercevoir une chose que n'avait pas envisagé le compositeur. Je dois dire que votre disque, il est extraordinaire, il est magnifique. En même temps, c'est complètement inattendu d'écouter notamment cette sonate de Rachmaninov. Et on peut penser que Rachmaninov n'aurait jamais envisagé ça. Alors à la fois vous prenez une place d'adaptateur, mais presque vous co-composez, parce que vous pensez à quelque chose à laquelle le compositeur n'avait pas pensé. Et alors c'est quoi, parce que vous avez, c'est une œuvre que vous aimez énormément, où vous dites que quand même c'est dommage que je puisse pas l'interpréter, ou ça se passe comment le processus?
Oui, c'est sûr que c'est assez osé de se permettre de...
Vous avez eu raison
d'interpréter cette œuvre au basson et piano. Il y avait aussi cette volonté de faire découvrir le basson autre, dans son lyrisme et dans son côté vocal, plus que l'image que la plupart des gens ont de cet instrument.
La musique française, notamment.
Avec la musique française, ou aussi ce que vous citiez, Pierre et le Loup, Le Sacre du Printemps, où beaucoup, beaucoup de le basson est souvent utilisé dans son côté un peu moqueur, ou dans les choses un peu staccato, ou des petits personnages, beaucoup dans les dessins animés, énormément. Et du coup, de montrer que le basson peut aussi chanter et très romantique et se permettre de longues phrases comme avec un instrument à cordes. Alors j'avoue que c'est un challenge technique en fait.
Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais au niveau de la difficulté
instrumentale,
vous êtes imposé. Je me rends pas compte parce que j'ai pas la connaissance de la technique de votre instrument.
Bah, ce sont
des
phrases
très grandes difficultés.
Ce sont des phrases très longues, vraiment des phrases qui ne s'arrêtent pas, qui s'enchaînent et qui sont. Et ça c'est vrai que c'est très difficile sur un instrument avant. Physiquement c'est difficile, mais c'est aussi c'était une immense chance d'enregistrer cette œuvre, parce que je trouve que ça m'a aussi poussé à développer davantage vraiment mon air comme un archer et de m'approcher de ça comme un chanteur. C'est ce que disait Paloma, c'est avec nos instruments de finalement d'être inspiré par d'autres instruments et se permettre du coup d'aller au-delà des limites, de transcender notre propre instrument et les limites que finalement nous fixons, ou le répertoire nous fixe.
Non, et puis pour nous, auditeurs, ça nous permet de redécouvrir une œuvre qu'on croit connaître. Et c'est vrai que ça donne un éclairage totalement différent et tout aussi légitime. Alors on a parlé beaucoup de Rachmaninov parce que c'est quand même le plat de résistance de votre disque, mais les hors-d'œuvre, si je puis me permettre, ne sont pas moindres, puisque ça commence par une étude de Scriabine, arrangée par Piatigorsky. Et puis il y a ces préludes de Shostakovich. Il y a une très belle mélodie de Rimsky-Korsakov, ça aussi. C'est quand même un compositeur, quand on écoute La Fille des Neiges ou d'autres œuvres de Rimsky-Korsakov, on se dit que c'est quand même un compositeur en France mésestimé par rapport à la beauté de son répertoire. Même les symphonies, est-ce que vous jouez ces symphonies alors que vous avez pu jouer son répertoire
beaucoup.
Oui, bien
évidemment.
Sûr. Et vous, Paloma, il y a des œuvres chambristes, mais pas du tout pour votre formation. Je crois qu'il y a.
Il me semble avoir vu un trio de Rimsky-Korsakov, mais je crois.
Avec clarinette.
Oui, mais non, c'est vrai qu'on a absolument. C'est vrai que c'était aussi cette. Bon, Scriabine, quasiment tous les compositeurs qui figurent au programme de ce disque, on a du répertoire pour piano. Donc ça, c'est formidable. C'est un répertoire qui est magnifique. Moi, l'étude de Scriabine, je l'avais jouée plus jeune, et puis je l'avais aussi beaucoup écoutée par Horowitz. Et c'est vrai que l'une des idées de Lola aussi, à travers ce programme, il me semble, c'était d'explorer toutes les facettes et la complexité de l'âme russe, en fait. C'était l'inspiration russe aussi, j'imagine, comme un grand, grand tableau. Et voilà. Et c'est vrai que c'est Rimsky-Korsakov, la mélodie est absolument magnifique, et on a très peu de choses, en tout cas, que je connaisse au piano, donc c'était formidable aussi pour ça.
Oui, et puis il y a le Nocturne de Tchaïkovski, alors aussi qui est merveilleux, et alors cette mélodie de Glinka, et on n'a pas parlé encore de cette œuvre de Lera Auerbach, donc une compositrice qui est née en 1973, qui a déjà eu un nombre de dédicataires prestigieux, outre
oui.
Vous, Lola Descours. Comment ça s'est passé? C'est vous qui avez commandé une œuvre
Oui, alors je l'ai contactée directement. J'ai osé également faire ça.
Je crois qu'avant vous, il y a eu Guidon Kremer, enfin, il y a eu quelques pointures de leurs instruments respectifs.
Et alors moi, j'ai toujours beaucoup aimé sa musique. J'avais découvert sa musique par ses préludes pour violoncelle et piano.
Vous adorez le violoncelle, vous?
Oui, j'aime la musique, mais le violoncelle, oui.
Oui, ça j'ai compris, vous aimiez la musique. Mais Et donc, vous l'avez contacté.
Et voilà, je l'ai contacté. J'ai découvert son œuvre donc par ses préludes là. Et en fait, après, j'ai aussi découvert qu'elle n'est pas seulement pianiste et compositrice. Elle est aussi poète et elle fait beaucoup d'art visuel, en fait, d'art plastique. Et j'ai regardé un petit peu toute son œuvre. Moi, je viens d'une famille d'artistes peintres et architectes, donc c'est vrai que j'étais assez sensible à ça. Et ouais, donc j'étais assez fascinée par tout son travail. Et donc voilà, je me suis permise de la contacter.
Et elle alors, ça s'est passé simplement
ou... Ben oui, j'étais étonnée, j'ai eu une réponse extrêmement rapide. En fait, elle a écouté notamment une... Elle connaissait très peu le basson, en fait. Donc au début, elle avait plutôt un a priori pas forcément extrêmement positif. Et en fait, elle a écouté les vidéos qui sont sur YouTube du concours Tchaïkovski, où notamment il y a un air de Onegin, que je joue avec orchestre, avec le Marinsky. Et en fait, je crois qu'elle a, elle a beaucoup aimé le basson, en fait, et le côté chantant du basson. Elle n'imaginait pas que c'était possible de faire ça avec cet instrument. Donc ça a été une vraie découverte pour elle. Et après, elle était curieuse, en fait. Elle s'est prise au jeu et elle n'avait jamais écrit pour cet instrument. Donc elle m'a demandé énormément d'aspects techniques, des effets, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc on a beaucoup discuté sur toutes ces questions. Et est née cette pièce, I Walk Unseen, composée sur un poème.
Très belle pièce. Milton. Et c'est difficile pianistiquement, Paloma ?
Non, alors on ne peut pas dire que ce soit vraiment difficile. Après, elle indique quand même pas mal de choses au niveau... ce qui n'est pas évident, c'est de saisir quand même, même si la pièce nous a séduites, je crois, assez rapidement toutes les deux. Il faut entrer dans un univers. Après, on a eu la chance de travailler avec elle. Alors, malheureusement, non, pas en présentiel, comme on dit aujourd'hui, puisque géographiquement, on était trop éloignées les unes des autres. Mais on a pu lui jouer la pièce et elle l'a écoutée et elle nous a coaché, on va dire, hein, comme on dit aujourd'hui. Et c'était extrêmement important d'en passer par là. Évidemment, c'est aussi l'une des grandes richesses de la commande du neuf, c'est-à-dire qu'on a enfin des réponses à nos questions et vraiment entrer dans cet univers de quête, de désir, de d'ombre un peu qui sont déjà dans le poème, mais qu'elle a beaucoup exprimé, et y compris sur le plan technique des deux instruments, parce que au piano on a une espèce de tapis, hein, d'harmonie qui s'enchaîne sans fin, très riche harmoniquement, avec beaucoup de retard, etc. Et puis en même temps des grandes ruptures. Il y a aussi des très belles cadences pour le basson seul aussi. Et voilà. Et donc je crois que ça nous a vraiment on a trouvé notre fil conducteur qu'elle nous a donné, et puis ce qui nous a aussi beaucoup servi, c'est quand elle nous a dit que de toute manière, elle estimait qu'elle ne serait jamais interprétée de manière suffisamment extrême. Donc ça, c'était pour nous très libérateur. Et voilà, je crois qu'on a, on a donné une image, celle qu'on a imaginée de cette pièce qui plaît beaucoup aussi. Hein. Voilà.
Et alors, comment ça s'est passé pour élaborer le répertoire de ce disque ? Il y a des œuvres que vous avez voulu adapter, Lola Descours, et puis il y a des œuvres que vous adorez, et vous n'y êtes pas parvenu, en fait,
beaucoup.
Ça ne collait pas.
J'ai essayé beaucoup d'œuvres pour aboutir à ce programme. Après, nous avions encore d'autres... Il y a d'autres mélodies qui étaient très intéressantes, mais bon, il faut choisir, il faut sélectionner, le temps est limité. Donc. Et après, c'était, oui, l'idée d'avoir cette fresque russe, d'avoir déjà Glinka, le père de la musique russe, jusqu'à Auerbach, qui est une compositrice actuelle, en passant par Shostakovich, Rachmaninov. Donc, on traverse vraiment... deux siècles, il y avait cette idée et de montrer différents aspects de la musique russe et du rôle des caractéristiques, donc vraiment le côté extrêmement romantique dans cette quête amoureuse et tous ces désespoirs et la joie qu'il peut y avoir. On alterne vraiment dans la sonate de Rachmaninov, mais aussi l'orientalisme, ce fantasme oriental qu'on peut entendre dans le Rimsky-Korsakov. Et évidemment cette période sous un régime soviétique, sous une dictature soviétique, dans les préludes de Shostakovich, où on entend vraiment ce sarcasme, cette ironie, ce désespoir, c'est très, très chargé.
Vous, Chostakovitch, c'est un compositeur que vous jouez en trio, bien sûr, avec son deuxième trio, Paloma.
Oui, il a composé donc deux trios. L'un, le premier, vraiment au tout début, il était d'ailleurs très amoureux d'une jeune fille russe. Et il lui a dédié ce trio qui est encore très empreint de romantisme, justement. C'est un Chostakovitch qu'on pratique beaucoup moins, très différent de celui du disque Bassoon Steps. Et puis, nous avons également son deuxième trio, extrêmement proche d'ailleurs du trio de Weinberg, qui était son grand ami, que nous avons enregistré avec le trio Karenine il y a quelques années. Oui, on a aussi le quintet avec piano, qui est très très beau. Et c'était son instrument, hein, le piano. Donc, et puis, il y avait tellement de grands pianistes, enfin, il y en a toujours d'ailleurs, hein, mais en URSS, en ex-URSS, à l'époque, que je pense que Chostakovitch était extrêmement bien servi et inspiré dans sa lutte, puisqu'en fait, composer rimait un petit peu avec lutter pour lui.
Lola Descours, à l'orchestre, quels sont les compositeurs qui vous gâtent le plus en tant que bassoniste, avec lesquels vous avez le plus d'affinité? On a parlé de tous ces compositeurs russes, bien sûr.
Oui, particulièrement les compositeurs russes pour la musique symphonique. Après, à l'opéra, c'est vrai que compositeurs allemands aussi, que ce soit Strauss, Wagner, ou italiens, en fait. Tout ce qui est Puccini, Verdi, aussi le basson a un très beau rôle. C'est vrai que l'opéra, le drama de l'opéra, pousse davantage les compositeurs à écrire pour les instruments graves, donc le violoncelle ou le basson sont très à l'honneur à l'opéra, peut-être plus qu'en symphonique.
Vous parliez d'Eugène Onéguine, d'ailleurs, il y a des phrases bouleversantes au basson.
Tout à fait, Eugène, exactement. Ouais,
ouais. Vous l'avez beaucoup joué à Francfort ou...
Oui, je l'ai joué une fois. À Francfort, nous, on balaye un immense répertoire, c'est vraiment une maison d'opéra qui a un répertoire très varié et beaucoup de productions.
Oui. Et là, vous êtes donc à Rotterdam avec la Afshani, qui est aussi un immense chef. Comment vous voyez un chef? À quoi vous voyez tout de suite que c'est un grand chef? Parce que nous, de la salle, parfois c'est très très mystérieux. Et quand on discute avec des musiciens d'orchestre, alors d'abord, souvent les musiciens n'ont pas tous le même avis sur un chef. Il y en a qui adorent un chef, d'autres.
Ça reste une question assez encore assez mystérieuse et assez magique, en fait. Je vous rejoins là-dessus. Alors évidemment, il y a des techniques. Hein. Il y a la technique, il y a des chefs vraiment qui ont une très belle baguette, qui ont une baguette très précise, très belle, qui permettent vraiment à chacun de se sentir important et de trouver la balance naturelle vraiment pour avoir un très bel équilibre sonore dans l'orchestre. Et puis après, il y a vraiment cette magie, cette aura qu'un Valéry Gergiev, par exemple, a. Et c'est difficile à expliquer. C'est vraiment quelque chose, c'est sa personne. Il arrive sur le podium et c'est... Oh, et déjà, on sent rythmiquement quelque chose d'installé, quelque chose de... Et l'orchestre va sonner complètement différemment. Ça, c'est...
Oui, mais en même temps, vous, en tant qu'instrumentiste avant, on a l'impression que vous avez besoin aussi qu'on vous laisse une marge de liberté.
Oui.
Que vous puissiez laisser votre musique s'épanouir aussi.
Oui, c'est d'être à la fois guidé, porté, soutenu et d'avoir cette liberté, de pouvoir jouer les solos de manière...
Oui. Et vous, Paloma...
Savant mélange.
Quand vous jouez en trio avec orchestre, donc le répertoire est... Bon, on pense à Beethoven, on pense à Martinou.
Voilà, exactement. Alors nous avons enregistré récemment deux triples concertos contemporains de Benoît Menut et Philippe Hersant.
Hersant, c'est un compositeur qui vous est proche.
Oui, tout à fait. Il a composé d'ailleurs un très beau trio. Très beau trio et c'est la musique qui sonne vraiment très bien. Et ce sont deux œuvres un petit peu en miroir, puisque Benoît Menut a composé son trio en pensant fortement à celui de Philippe Hersant. Et tous les deux sont d'inspiration très poétique, fondée sur un poème. Enfin voilà, c'est.
Donc c'est un disque qui va paraître.
Oui,
ça
pour Mirare
en
mai. Voilà, en mai 2023.
Avec quel orchestre?
Avec l'orchestre de chambre de Wallonie, sous la direction de Van Mardi-Rossian.
Van Mardi-Rossian, qui est également pianiste.
Oui, tout à fait, excellent pianiste. Excellent pianiste.
En tout cas, ce disque Bassoon Step est absolument merveilleux pour le label Orchid Classique. Juste une dernière question. Descours, vous avez choisi les œuvres et après, pour l'ordre du disque, ça a été très compliqué d'élaborer, de commencer par Scriabine, terminer par Rachmaninov. Bon, ça, c'était un peu le grand chef-d'œuvre du disque par le génie et par la longueur. Mais au niveau de l'itinéraire, ça a été une grande réflexion.
En effet, c'était une évidence de terminer par le plat de résistance, la grande sonate de Rachmaninov. Après, ça a été une réflexion. Premièrement, nous pensions démarrer par les préludes de Chostakovitch. Bon, finalement, nous avons inversé et donné la tonalité peut-être un peu plus lyrique dès le début, en fait, ça a été ce parti pris. Et ensuite, c'était la réflexion était autour de la pièce de Lera, Auerbach, pouvoir la mettre en valeur, donc avoir quand même, disons, les oreilles disponibles pour entendre cette musique, et d'où la mélodie de Glinka, après, qui est assez... qui est plus, disons, harmoniquement plus simple et qui permet de se préparer au grand voyage de la sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninov.
En tout cas, le terme voyage est particulièrement adapté à ce disque, qui est un merveilleux voyage dans ces steppes russes qui commence par Scriabine et qui se termine par Rachmaninov. Lola Descours, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci à vous, Frédéric.
Et Paloma Quider, bien évidemment. Merci également à vous.